Moi, je suis ingénieur agronome de formation. Je fais ces agros là, super. Voilà. Et puis, les deux copains, un jour, on s'est dit, on aurait bon d'entendre que des catastrophes dans les médias. Je sais si certains sont déjà dit ça aussi. On s'est dit, et si on allait découvrir le monde à travers nos propres yeux et pas ceux de la caméra du JT de 20h, comme ça, ça nous rendrait le moral et puis on pourrait peut-être partager toutes ces belles initiatives qu'on peut rencontrer dans le monde. C'était en 98, au tout début des pages Internet, donc on a été les premiers à faire un tour du monde relayé sur Internet. On avait acheté aucun comment faire son site quand on est nul. Et comme on était nul, on a finalement réussi. Et voilà, donc on fait un journal de bord tous les 10 jours. Et quand on est rentré, les gens qui nous ont suivis nous ont dit, il faut que vous nous racontiez. Donc on a fait une soirée, on avait loué une salle où il nous fallait 500 personnes qui payent 10 euros pour payer la salle. Donc c'était quand même un challenge, à l'époque il n'y avait pas Facebook pour inviter tout le monde. Et donc on était totalement inconscients parce qu'on perdait de l'argent et on avait 25 ans, donc on était fauchés. Et puis, finalement, on était en train de tout préparer, et puis le régisseur arrive en catastrophe en disant, mais qu'est-ce que vous avez foutu, c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc nous, on était en panique, c'est une merde, il n'y a personne. En fait, on dit, la rue est bouchée, parce qu'il y a 2200 personnes qui attendent pour rentrer. Et c'est là où, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente des gens pour qu'on leur parle de ce qui marche, de signe d'espoir, des hommes et des femmes qui retrouvent sur manche, que ce soit dans l'environnement, la paix, l'éducation, l'emploi, etc. Et il y avait un éditeur à cette soirée qui nous a commandé un livre le soir même, donc c'est quand même assez royal. Et alors moi, j'étais nul aussi en français, donc il a fallu que je m'y mette. Et puis finalement, le livre, en fait, s'est très bien vendu, il a été traduit en plusieurs langues, et donc on s'est dit, tiens, ça intéresse toujours les gens, tant mieux. Et surtout, on a eu plein de messages de jeunes, notamment, qui se sont engagés dans certains des projets qu'on décrivait dans notre livre. Et là, ça a été extraordinaire parce que ces projets, on s'y était attachés, on s'est dit, mais c'est des projets formidables. Et le fait de se dire qu'à travers un livre tout simple, on a réussi à donner envie à d'autres jeunes de les rejoindre pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, apporter leurs compétences, chacun différemment. Et là, je me suis dit, il faut que je transforme tout ça. Donc, je suis allé travailler chez Arthur Andersen, qui était un grand cabinet de conseil. Alors, elle ne sait peut-être plus, parce qu'après l'affaire Enron, ça n'existe plus. Maintenant, c'est Verein Point. Et là, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans un cabinet de conseil classique où on ne parle que business, on ne parle pas forcément de sens. Et justement, je me suis dit, j'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai envie de refaire d'autres projets, j'ai besoin d'acquérir des compétences professionnelles. Et j'ai eu la chance, en fait, de tomber dans un cabinet formidable, donc Bearing Point, qui m'a recruté pour ça, enfin, parce que j'allais faire un tour du monde différent des autres. Et puis, j'ai eu un projet à ce moment-là, qui s'appelait Reporter d'espoir à l'époque, et ils m'ont dit, écoute, on peut t'aider, donc, pendant 5 ans que j'ai passé chez eux, j'étais payé à temps plein, mais la moitié du temps, je travaillais sur mon projet. C'est quand même assez sympa. Et voilà. Et en l'occurrence, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, pour eux, ça a été hyper rentable, parce que moi, je rencontrais des sponsors, des clients pour notre projet, à qui je parlais de Bearing Point avec des trémolos dans la voix, parce que c'était quand même grâce à eux que j'avais réussi, que j'avais pu monter mon projet. Et les gens me disaient, mais non, il est formidable ce cabinet, ça a l'air super, il a l'air différent des autres. Je me dis, oui, d'ailleurs, ça aurait peut-être le coup que vous rencontriez. Et notamment, il y a une boîte que j'ai mis en relation, alors que ça faisait 5 ans qu'ils cherchaient à l'avoir comme client. Et depuis, ils ont facturé 15 millions d'euros d'honoraires. Donc, comme quoi, c'est rentable aussi pour les boîtes de soutenir des projets, même quand au début, c'est des petits projets. Voilà. Et puis, après, je me suis lancé le défi fou de travailler avec Mohamed Younous pour faire une fiction de cinéma sur sa vie, qui est en stand-by en ce moment pour des raisons politiques au Bangladesh. Je rentrerai pas dans les détails. On a eu la chance qu'il ait le prix Nobel de la paix 2 mois après qu'on ait signé avec lui. Donc ça, c'était vraiment un gros coup de bol. Et puis, après, j'ai quitté Reporter d'espoir pour un certain nombre de raisons. J'avais passé la main à une personne où finalement on n'avait plus la même vision. Et donc j'ai monté Spark News, qui est la même idée, mais enfin, internationale et avec des modalités différentes. Et voilà, donc maintenant je travaille à temps plein sur ce projet. Voilà, alors le thème c'est donner du sens au travail. J'en entends certains qui vont dire ok, c'est super, mais comment il fait pour bouffer? Et donc j'ai la chance en fait d'avoir un projet qui pour l'instant a un business model qui permet de gagner ma vie aussi bien, voire mieux que quand j'étais dans le conseil. Enfin, maintenant c'est des équilibres instables, hein, entrepreneur, on ne sait pas forcément toujours exactement combien on pourra gagner. Voilà, en tout cas je rassure ceux qui ont des rêves, des projets et qui ont peur de se lancer pour des raisons financières, ce qui malheureusement est important. Alors, voilà. En fait, vous avez compris, c'est vrai que les médias ont tendance à parler sur tout ce qui va mal. Et moi, mon guideline, c'est cette phrase de Gandhi. Finalement, c'est vrai que les catastrophes font beaucoup de bruit. Et tout ce qui source, hein, tout ce qui est en train de germer, on l'entend pas. Et c'est pour ça, en fait, que les médias n'en parlent pas. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, plutôt que de critiquer les médias, je me suis dit déjà, essayer de comprendre pourquoi ils ne parlent pas plus souvent des solutions, des initiatives et ça. Il y a pas mal de vidéos après, vous verrez, donc vous aurez pas mal d'exemples. Et je faisais la stratégie de la conduite du changement chez Berry Point, je me suis dit, bah, déjà, s'il y en a qui font la conduite du changement, ou qui voient ce que c'est, un petit peu, quoi. La conduite du changement, c'est d'amener une organisation d'un point A à un point B. Donc, par exemple, quand il y a une fusion entre deux entreprises, souvent c'est pas facile, donc comment on accompagne ces transformations. Et donc la méthode, en fait, c'est bah, on essaie de voir quels sont les freins pour aller du point A au point B, et ensuite bah, on met des leviers en place pour faire sauter tous ces freins ou pour faire en sorte que la transition se fasse. Et donc les freins des médias, en rencontrant des journalistes, des rédacteurs en chef, j'ai compris qu'il y avait deux freins principaux. Un, c'est ils pensent que ça intéresse personne, ils pensent que ça ne se vend pas. Et plus tard, justement, on a pu démontrer que c'était faux, puisqu'on a fait une opération avec Libération. On leur a lancé le défi de faire un numéro dédié aux solutions, donc pas un hors-série, le numéro d'un samedi, donc le numéro du jour. Et le rédacteur-chef était convaincu, les journalistes pas du tout, ils ont dit « qu'est-ce que c'est que cette économie, on va quand même pas faire du positif, on n'est pas là pour reprendre la vie en rose, etc. » Et le rédacteur-chef a dit « écoutez, si vous voulez pas participer, c'est pas grave, de toute façon, on fera ça pendant les vacances de Noël, donc vous ne serez pas là. » Et on l'a fait ensemble, et ça a été la meilleure vente de l'année. Et donc les journalistes, et ça c'est la chaîne qui m'a raconté après, sont venus voir en disant bon, finalement c'était quand même vachement bien, les sujets étaient super intéressants, nous on s'attendait à des trucs un peu gnangnang, un peu idéalistes, alors qu'en fait c'était vraiment des sujets intéressants. Donc nous on a envie de le faire, mais de toute façon on va le faire sérieusement, on va le faire nous-mêmes. Et donc on avait réussi en fait notre challenge, qui était de faire en sorte qu'ils s'approprient le projet, et chaque année en fait ils le font avant Noël. Alors ça change pas tout, c'est-à-dire que Libération ne va pas se mettre à faire que des sujets positifs, ça n'aurait pas de sens. Mais voilà, il y a en tout cas le journaliste qui propose ce genre de sujet s'entend plus dire non mais ça intéresse personne et c'est pas ça qui va faire. Au contraire, ça peut être un argument. Et ensuite le deuxième frein, c'était on avait beaucoup de remarques des journalistes qui disaient mais moi aussi j'ai envie de parler de ces sujets-là parce que moi-même j'en ai ras-le-bol. En fait, on s'en compte qu'ils ont exactement la même réaction. Un journaliste de TF1 qui me disait moi je regarde plus le JT parce que ça me déprime. Ce dont je me suis rendu compte, c'est enfin ce qu'il me disait, c'est qu'en fait on ne sait pas où trouver ces sujets. C'est comme le dit la phrase de Gandhi, ces sujets ne font pas de bruit. Donc nous journalistes, on est tellement submergés de travail que vous tous j'imagine, qu'on n'a pas le temps d'aller chercher ces sujets, on ne sait pas où les trouver, il n'y a pas une attachée de presse derrière qu'on doit envoyer un communiqué. Et donc là je me suis dit, mais finalement, plutôt que de critiquer les médias, et si on les aidait, et si on préparait le terrain pour eux, notamment en mutualisant. C'est-à-dire que si un journaliste dans une rédaction ne peut pas faire tout seul, moi je peux le faire pour tous les journalistes du monde entier. Et donc ça me prendra, en termes d'efficacité, c'est beaucoup plus rentable. Et donc voilà. Et donc on a créé Spark News. Alors Spark News, il y a plusieurs choses. Le premier outil, je vous parlerai du reste après, c'était une plateforme où on agrégeait toutes les vidéos, c'est-à-dire que toutes les vidéos qui parlent de solutions, d'initiatives positives, d'entrepreneurs sociaux, etc. Et donc, tout ça, c'est présent sur le net, en fait. Sur YouTube, sur Dailymotion, sur TF1, sur CNN, etc. Sauf que si vous cherchez des solutions, vous ne savez pas où les trouver. Vous savez, même sur CNN, il y en a plein, mais il y a aussi 95% d'autres, et donc c'est très difficile à trouver. Et donc l'idée, c'était de dire, bah, nous, on va faire un travail de veille, on va agréger toutes ces vidéos. C'est une plateforme qui est collaborative, donc c'est que chacun de vous, si vous tombez par hasard sur une vidéo qui parle d'une solution géniale en France ou ailleurs, vous pouvez la mettre sur Spark News et juste à mettre le code, enfin, l'URL, un titre, une petite description, le pays, la langue, etc. Et c'est fait. Et donc comme ça, on a des gens dans le monde entier qu'on ne connaît pas qui régulièrement mettent des vidéos et qui viennent enrichir la base de données. Aujourd'hui, on est à 1500 vidéos au bout d'un an et demi. Et encore, il y a un potentiel fabuleux, parce qu'on s'est rendu compte que dans tous ceux qui nous connaissent, on a à peine 5% qui savent qu'on peut rajouter des vidéos. C'est pour ça que j'insiste dessus, pour que vous sachiez que vous puissiez contribuer. Voilà. Voilà, donc ça c'est la suite de la page. Donc voilà, il y a plein de vidéos sur le site, classées par thématique, l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation, l'emploi, la paix, etc. Donc en fonction de vos goûts, vos intérêts ou même les domaines de vos entreprises, vous pouvez les voir sur chacune de ces rubriques. Voilà, donc l'idée c'est, il y a plein de solutions. En fait, ce qui est incroyable, c'est que tous les jours, nous on découvre des nouveaux projets incroyables, hein, qu'on fait quasiment que ça, et on découvre encore des trucs qui parfois existent depuis 3 ans. Donc le vivier, il est colossal. Et ça, c'est vraiment... au début, on s'est dit, mais est-ce qu'on aura suffisamment de choses à mettre dessus? Et même avec un sponsor, dans le contrat, on a mis, bon, bah, il faut qu'il y ait minimum, c'est Veolia, il faut qu'il y ait minimum 40 vidéos sur l'eau. Et aujourd'hui, on a plus de 200. Et en fait, moi, j'avais peur de m'engager là-dessus. Et en fait, finalement, c'était beaucoup plus facile que ça. Alors, une première vidéo, c'est un exemple d'un... Bon, le plus simple, c'est que vous les trouviez tout seul.
Dépistage du cancer par les aveugles, Duisburg, Allemagne. Pour dépister le cancer du sein, les gynécologues allemands pratiquent une palpation souvent sommaire, faute de temps.
Mais vu l'idée qu'on pouvait améliorer cette palpation si elle était réalisée par une femme douée d'un sens du toucher extrêmement développé. Et ce sont les aveugles qui ont le meilleur sens du toucher, c'est-à-dire le cancer.
Ce gynécologue crée en 2006 Discovering Hands pour former les aveugles à la palpation des seins. Marie Wiesvoll est l'une des premières bénéficiaires de ce programme unique dans le monde. Elle soulte aujourd'hui 700 patients par an sous la responsabilité d'un médecin.
Qui a ça, c'est la taille d'une tumeur qu'une femme peut sentir toute seule. Entre 1 et 2 cm, c'est ce qu'un médecin peut trouver lors d'une auscultation. Et entre 6 et 8 mm, c'est ce que les aveugles formés ont détecté.
Résultat, une personne aveugle détecte 2 fois plus de tumeurs qu'un médecin voyant. Grâce à ce nouveau travail, ces femmes, 16 au total, ont retrouvé une vie sociale. Cette ONG fonctionne grâce à des subventions, aux cotisations des cabinets affiliés et aux revenus générés par la formation des aveugles.
Maintenant, il faut faire du marketing, convaincre les femmes de se laisser ausculter par un aveugle et consulter les aveugles qui pourraient faire leur formation.
Pour Discovery Hands, le dépistage du cancer du sein n'est qu'un début et d'autres applications sont facilement envisageables.
On pourrait imaginer par exemple avoir des palpations de la prostate par des aveugles.
Je suis moins sûr. Voilà, et ça, donc vous l'avez vu, c'est un projet qui est en train de naître avec 16 femmes formées, mais cette vidéo, si on la diffuse, et aussi à travers les médias, j'en parlais tout à l'heure, ça peut intéresser énormément de monde dans le monde entier. Et donc l'idée, c'est qu'un autre médecin s'approprie cette idée, la duplique, profite de l'expérience de cet Allemand et que ça puisse essaimer dans le monde entier. L'énorme avantage, c'est que c'est bon pour la sécu, puisque les femmes aveugles coûtent moins cher, les femmes sont dépistées moins cher que les médecins, sont dépistés en amont, donc on les traite mieux et pour moins cher. Et trois, ça donne un emploi, c'est pas mal. Une autre initiative en Estonie, cette fois-ci, c'est l'histoire de Ryan Holbach, qui était fasciné par la nature de son pays, mais c'est un pays où il y a énormément de décharges sauvages. Ils n'ont pas la chance d'avoir des Veolia ou des Suez qui gèrent bien les décharges. Et il s'est dit que c'est quand même dommage que notre pays soit défiguré par ces décharges. Et il s'est rendu compte que le pays, le gouvernement ne pourrait rien faire, ça coûte très très cher, ça aurait pu beaucoup d'argent, il y avait plus de 25 millions d'euros, ça aurait pu plus de 3 ans. Et il s'est dit, mais il faut qu'on le fasse nous-mêmes, nous la société civile. Sauf qu'il était tout seul, et donc il a parlé avec ses copains, et ils se sont lancés le défi, et si on nettoyait notre pays en une journée. Et donc ils ont calculé qu'il leur fallait 40 000 personnes en une journée pour nettoyer le pays. Et donc ils ont choisi une date, et ils ont dit on va en faire une cause nationale. Donc ils ont développé un certain nombre d'outils, notamment les applications iPhone pour géolocaliser les décharges. Donc chacun de vous, dès que vous passez dans les décharges sauvages, hop, vous la géolocalisez en donnant quelques indications. Et ensuite les gens le jour J allaient s'inscrire en fonction des besoins sur Google Maps sur les décharges. Et je ne vous dis pas la suite, parce que vous allez découvrir.
We live on beautiful planets, but we are trashing it day by day. Waste is everywhere. Beaches, cities, forests, even oceans. In Europe, there is a small country called Estonia. Over half of its territory is covered with pristine forests. However, the forests were decorated with household and construction waste. Many people believed it is acceptable to bring their garbage to the forest, and they have been doing that for years. But there was a group of people who believed that all this could be changed.
Teeme ära sellist niimoodi, et kõigepealt tuli minul selline mõte, et mis oleks, kui koristaks Eestima täiesti puhtaks.
Ja kui me neile kokku saime, rääksime nende kaardist, et midagi seda teha, siis sain üldse, et stop. Et selle me teeme küll, aga me teeme selle ühe päeva jooksul.
Jah, sellist asja olnud kunagi varem tehtud ja esiotsa ei olnud meil naenud kirjastada. Aga me olime kindlad, et seda on võimalik.
The idea was named Let's Do It, and the plan was to clean up 10,000 tons of waste in just one day. To do that, it was necessary to engage at least 40,000 volunteers. But how to do it? The first step was to create a team of best professionals in Estonia. A grassroots initiative was launched. In a few weeks, there was a team of 20 volunteers, which eventually grew to 620 people. The second step was to get the people, organizations, communities to gather enough support for the idea and find reliable partners. Initiators realized from the start that they needed the support of the entire society, so they went on to win the support of opinion leaders, NGOs, top IT specialists, the largest enterprises, politicians, the media, even the president, gathering eventually more than 500 official partners.
Iga firma vastasid vastavalt sellele, mis see suhtetel olid, et esimene jätkuma töötajatele, mis andis meile oma töövahendeid, pluge autosid, kes andis oma reklaame pindu.
Me ei öelda, et projekti lõpufaasis olime meil nagu mafia. Keegi ei saanud meile ära olida.
The first step was to locate and estimate the type and amount of garbage.
Voilà, je vous découvrirai la suite de la vidéo sur ce podcast. Voilà. Effectivement, donc en un jour, ils ont tout nettoyé, il y a eu 50 000 personnes, et ça a été le plus gros événement jamais réalisé en Estonie. Ils en sont très fiers, ça a ressoudé encore plus la population, et le projet, en fait, ils l'ont dupliqué dans 57 pays. Mobilisant parfois plusieurs millions de personnes. Parce que l'Estonie, c'est tout petit, hein, donc 4% de la population, 50 000 personnes, c'est 4% de la population, ce qui est énorme. Alors voilà, donc vous avez vu la plateforme, des exemples de vidéos que vous pouvez trouver, et puis ensuite on s'est dit, bon ça c'est bien, mais il n'y a que les journalistes convaincus, ou qu'on aura convaincus, qui vont aller sur cette plateforme pour se nourrir, trouver des idées de sujets, etc. Donc il y en a pas mal d'ailleurs, hein, qui vont régulièrement chercher des sujets. Et on s'est dit, mais il faudrait faire ce que j'avais fait avec Libération, il faudrait faire une échelle plus importante. Donc on s'est dit, on va lancer le défi à 20 rédacteurs en chef des 20 plus gros journaux de 20 pays, de faire la même chose, de faire un supplément dédiée aux solutions. Et donc, voilà, on s'est lancé le défi, et finalement, ils ont tous dit oui, enfin, on va contacter un peu plus, quand même. Certains n'étaient pas prêts, certains ont reçu nos mails, quelques-uns ont dit non pour l'instant, l'année prochaine, ils ne pourront pas dire non. C'est comme la mafie, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez pu lire les sous-titres, mais Rainer disait, c'est après, c'est qu'au début, on avait du mal à convaincre, puis après, il y a eu un moment où la mayonnaise a pris, donc c'est comme la mafia, plus personne ne pouvait nous dire non. Et ça, c'est la chance qu'il y a sur, quand on croit dans un projet, c'est qu'il y a un moment où il n'y a pas de point de non-retour. Voilà, donc on a appelé ce projet Impact Journalism Day. Ce qu'on appelle Impact Journalism, c'est, bien sûr, il faut que les médias dénoncent les problèmes, qu'ils vous alertent, mais si on ne fait que alerter, on reste les bras ballants, on ne sait pas comment agir. Alors si vous parlez aussi des solutions, là, vous avez un double impact. Et voilà, c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler le projet. Et donc, il y a donc une vingtaine de journaux qui nous ont rejoints, un peu partout dans le monde. Et voilà. Et donc, le jour J, donc Le Monde, par exemple, a fait un supplément qui ressemble à ça, donc de 8 pages. Ce que j'ai pas dit, c'est que, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mutualisé. On a fait de la co-création, un travail collaboratif. Vous entendez sûrement beaucoup dans vos entreprises, parce que ça. Quelque chose qui est en train de se développer énormément. Donc on s'est dit, on va mutualiser nos efforts. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a produit une vingtaine d'articles. Moi, j'avais embauché Dovel Hachef, une ancienne New York Times, une ancienne de France 24. Donc on a choisi une vingtaine de sujets, parmi notamment ceux qu'on a découverts grâce à la plateforme. Ces sujets, on en a fait des articles, on les a proposés aux journaux, et chaque journal nous a fourni deux ou trois articles, donc des beaux projets qui allaient dans leur pays. On a traduit en trois langues, et on a mis tout ça à disposition des journalistes, des rédacteurs en chef, qui ensuite, chacun dans leur rédaction, ont composé leur supplément de 8 pages, enfin même parfois 16, en piochant en fait les articles, les photos, les vidéos qui les intéressaient. Voilà, donc ça c'est la Stampa en Italie, donc qui est l'équivalent du Monde en Italie. Alors, comme c'est des Italiens, ils ont fait un super graphisme. Et c'est marrant parce qu'ils ont fait, un making-of avec une vidéo où on voit la graphiste qui explique voilà, comment elle a fait le truc et ça. Ça c'est au Mexique, donc c'est un des journaux leaders du Mexique. Ça c'est le Straits Times à Singapour, le plus gros journal de Singapour. Et alors là il y a une histoire qui est assez sympa, c'est que parmi les articles qu'on avait proposés à tous les journaux, et d'ailleurs que la plupart ont pris, il y avait un article sur un Hollandais qui a inventé des lunettes universelles, des lunettes qui fonctionnent pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a 500 millions de personnes qui n'ont pas de lunettes. Simplement parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo et d'opticien dans leur village. Et lui s'est dit, mais donc, conséquence sur l'éducation, c'est-à-dire que tous les enfants qui ne voient pas bien, ils n'ont que à l'école, et pour les parents qui ne peuvent pas travailler ou non. Et donc il a inventé une paire de lunettes, donc la même, la paire, qui nous convient à tous. En fait, il y a deux verres l'un sur l'autre, et quand on tourne une petite molette, ça fait glisser les verres, et ça règle la focale du verre. Donc c'est tellement con, personne n'y a pensé. En fait, c'est même pire, quelqu'un l'avait inventé il y a plus de 50 ans, donc le brevet existait, il est même tombé dans le domaine public, mais personne ne l'utilisait. Et donc cette histoire, on l'a racontée dans le Straits Times. Là, il y a une électrice, une des 1,5 million, je crois, de lectrices de Singapour, qui tombe dessus, qui dit, c'est génial ce truc-là, il faut que j'en parle à mon mari, qui était un des patrons des Silos. Et donc elle montre ça à son mari, qui n'avait jamais entendu parler de ce projet, donc il découvre, alors qu'il était responsable de la RSE et des pays émergents, et qui travaillait justement sur comment apporter la vision aux gens de ce qu'on appelle le BOP, Bottom of the Pyramid. Je ne sais pas si ça peut être un test, qui a entendu parler du Bottom of the Pyramid, BOP. C'est les entreprises se rendent compte qu'il y a 4 milliards de personnes qui paient moins de 2 dollars par jour, j'ai une petite digression en ligne. Et en fait, ce sont des gens qui ont quand même 2 dollars par jour et qui consomment. Et donc, en fait, il y a énormément de produits qui se développent pour ces gens-là, qui sont des produits qui sont vraiment utiles et adaptés. Le meilleur exemple, c'est le microcrédit. Les gens qui ont les moyens de prendre un crédit, de rembourser pour financer une activité économique, et tant que le microcrédit n'était pas créé, personne ne pouvait l'utiliser. Donc là, ces lunettes, par exemple, c'est typiquement un des produits BOP, c'est un des produits adaptés pour les gens qui avaient moins de 2 dollars par jour, parce qu'elles coûtent 2 dollars à fabriquer, on les vend à 4-5 dollars et tout le monde s'y trouve. Et voilà, et donc ce patron de, enfin, ce responsable de la RSE décideur, du coup, nous contacte en nous disant, mais c'est très intéressant, est-ce que vous pouvez nous mettre en lien. Donc la semaine dernière, on l'a emmené en Hollande pour découvrir cette petite boîte. Enfin, ils sont 10 volontaires, ils ne sont même pas. Et donc c'était génial parce qu'ils ont parlé technique, ils ont parlé distribution, et ils sont en train de créer une sorte de partenariat technique et pour distribuer ces lunettes un peu partout dans le monde. Donc ils font un premier projet pilote. Si ça marche, ils pourront distribuer sans doute plusieurs millions d'exemplaires ces lunettes. Donc c'est une illustration de ce qu'est l'impact journalism. C'est-à-dire quand on communique des solutions, bah, ça donne envie aux gens d'agir, ça crée des liens et ça crée de la valeur sociale. Voilà. Et puis donc, du coup, quand on a sorti ces suppléments le même jour, le 22 juin dernier, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a eu plein de gens qui... Enfin, en fait, il y en a un qui s'est photographié avec le journal, qui l'a mis sur Facebook, et du coup, il y a eu plein de gens qui ont fait pareil. Voilà, donc en Inde, à Singapour, ça c'est Journaux pour enfants, de Mon Quotidien. Bon, ça c'est les enfants, moi je voilà, donc même les petits lecteurs aussi, ils le font. Voilà, au Liban, voilà, il y en a plein d'autres. Et en fait, si on cumule le lectorat de tous les journaux, on a touché 50 millions de lecteurs qui ont pu découvrir 8 pages dans le journal, donc beaucoup plus que le bouquin qu'on a vendu. Et voilà, et en fait, ce qui était incroyable, c'est que, enfin, ce qui nous a vraiment émus et touchés, c'est que les rédacteurs en chef, non seulement ils l'ont fait, bon, à part un ou deux qui ont fait défaut au dernier moment pour un certain nombre de raisons, mais ils avaient l'air contents d'avoir fait. Ils ont des très bons retours dans les lecteurs. Ils nous ont dit, mais nous, on est prêts à continuer l'année prochaine. Le Monde m'a dit, mais bon, on a fait 8 pages, l'année prochaine, on fait 12. Et du coup, on s'est dit, on va les réunir ensemble en France. Donc sur les 22, on a invité 14. Ils ont payé leur billet d'avion et on s'est retrouvés pendant 3-4 jours, enfin 3 jours, pour débriefer et co-construire les prochaines éditions. Pour profiter des best practices de chacun. Par exemple, Excelsior, il a expliqué aux autres qu'ils avaient vendu plein de pages de pubs simplement en disant aux annonceurs, bah, d'habitude vos pubs elles sont entre la crise, la guerre, les catastrophes, etc. Là, vous les mettez au milieu des solutions, c'est beaucoup plus valorisant pour vous. Et donc tous les autres ont pris note en disant, bah, attends, c'est génial, je vais mettre ça dans la régie. Et comme ça, on pourra remplir les pages de pubs. Voilà. Et donc, en juin prochain, on va passer à 40 pays en ajoutant les télés, les radios, les réseaux sociaux. Il y a une grande chaîne française qui a dit génial, nous ce qu'on va faire, enfin ce qu'on propose, c'est on choisit 10 ou 20 télés, chacune fait un super reportage, mais elle met le paquet pour avoir le plus beau reportage qui soit 5-7 minutes. Et ensuite on fait chacun à 90 minutes en prenant les reportages de tout le monde. Donc, finalement pour une chaîne, elle a 90 minutes gratuites et vous allez écouter qu'une seule vidéo, sauf que cette vidéo elle sera vue par plusieurs dizaines de millions de personnes. Et en plus les journaux pourront les relayer aussi, donc on est content, donc c'est super. Voilà. Alors maintenant encore des petites vidéos. Là c'est l'histoire d'un chef d'orchestre qui, au Paraguay, qui s'est dit, moi j'ai envie d'apporter la musique dans les bidonvilles. Donc, il est allé voir un éducateur social en lui parlant de son idée. L'éducateur social lui a dit, bah, c'est gentil, mais le violon coûte plus cher que la maison des gens et du coup, ça serait complètement décalé, même si vous arriviez à trouver des financements. Mais quand même, venez sur le dans le bidonville et puis on va discuter, je vais vous présenter des gens. Et là, il rencontre notamment un homme dont le métier était de trier les ordures et de fabriquer, de recycler en fait tout ce qu'il trouvait et de fabriquer des objets un peu comme. Vous avez sûrement vu, pour ceux qui ont un peu voyagé, les gamins qui vous fabriquent des voitures à partir de canettes et de coca, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, ça me choque, beaucoup impressionné. Et donc, ils ont un vrai talent. Et donc, le chef d'orchestre lui dit, mais est-ce que vous seriez capable de faire un violon? Et le gars lui répond, bah, je ne sais pas, j'en ai jamais vu. Et donc, il apporte un violon, et il quelques semaines après, en fait, il avait fabriqué un violon. Et puis après, il a fabriqué une clarinette, il a fabriqué un violoncelle, etc. Et voilà ce que ça donne.
Driver.
J'ai mis mon mail en haut. Si certains d'entre vous voulaient être tenus informés des événements qu'on fait, des opérations, envoyez-nous un mail. Et voilà, comme ça, on vous met la base de données. On ne vous inquiétez pas, on va mettre un mail à tous les événements. Donc, vous ne serez pas spammé. On le retrouve sur les autres slides. Hein, donc, là, c'est un projet. En fait, c'est deux jeunes. J'ai choisi aussi parce que c'était des jeunes quelques années moins que vous, mais qui ont vos âges, deux Américains qui, à la fin de l'année, constataient que la plupart des bouquins scolaires des universités étaient jetés parce que les programmes changent en permanence et qui n'ont plus valeur, entre guillemets. Et donc, au début, ils se sont dit, bon, on n'a rien à faire cet été, donc on va mettre des cartons, on va récupérer les bouquins, puis on les enverra dans certaines universités africaines, par exemple, parce que, voilà, ce qui est dans les bouquins a toujours de la valeur. Et donc ils ont fait ça, et finalement, de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que les gens mettaient dans les boîtes des bouquins qui avaient encore de la valeur, donc ils les ont vendus sur Amazon. Et voilà, et de fil en aiguille, ils ont créé un social business de 20 millions de dollars, qui est très rentable. Et depuis le début, ils ont reversé maintenant 12 millions de dollars pour des projets de lutte contre l'illettrisme.
L'idée de faire en sorte que les gens deviennent riches donne leur livre plus fort que l'autre les achats. Une partie des bénéfices profite à ceux qui n'ont pas accès au livre.
Ah, who don't have access to books. So the idea for better world books.
Notre idée c'est de fournir. Et tout a commencé dans ce moment où on a chaque semestre pour vendre le livre pour quelques dollars à l'école
de la fac. Le
problème, c'est qu'un bon cinquième des livres ne sont pas repris.
A lot of times, these books are,
ce sont des livres que les professeurs ne veulent pas utiliser, mais c'est les cours rangés, par exemple.
The course has changed.
Alors on s'est dit qu'il devait y avoir quelqu'un au monde qui pourrait avoir besoin de ces livres. Un étudiant aux universités quelque part en Afrique à qui on pourrait en faire un don. Alors on a essayé de donner une maison à ces livres, soit on n'avait plus. On a
ouvert notre
premier compte avec le fonds de Charizard. Ça a été notre investissement des marins profonds de la société.
Deux étudiants qui veulent changer le monde avec des livres. En 2003, la collecte est lancée. Dans les universités du pays, les couloirs se
parent
rapidement de
grandes boîtes en carton. C'est pour ces boîtes que j'y commence. C'est pour les universités, les États-Unis.
C'est un très beau reportage de Canal+, d'ailleurs, et la directrice du documentaire de Canal+ a vraiment à cœur de parler de ces sujets-là, et elle est très avant-gardiste. Et c'est passionnant de travailler ensemble. Il y a des gens formidables à tous les niveaux des grands médias. Ça, c'est un autre exemple aussi que je vous ai choisi, parce que ce sont des jeunes du MIT, donc ils sont jeunes. Le constat que ces deux jeunes filles ont fait, c'est que après l'école, les enfants rentrent chez eux, mais ils n'ont pas de lumière pour s'éclairer et faire leurs devoirs. Et le deuxième constat, c'est qu'elles ont vu tous les enfants du monde jouer au foot, et donc elles ont inventé un ballon de foot qui produit l'énergie en fait avec un système intelligent à l'intérieur. Et donc après avoir joué au foot pendant une demi-heure, on branche une lampe avec une clé USB et on peut s'éclairer pendant 3 heures. On n'a pas le temps de passer la vidéo, je suis désolé, mais voilà. Un autre, alors il y a plein de projets qui touchent au domaine de l'énergie et on parle souvent des panneaux solaires. Alors, c'est une solution, même si ce n'est pas la panacée parce que vous savez, ça pollue quand on doit les recycler, c'est pas forcément évident. Et là, c'est les deux jeunes ingénieurs qui ont inventé une lampe qui fonctionne comme les coucous. En fait, le coucou, le mécanisme fonctionne parce que vous avez un poids qui tombe pendant toute la journée, puis le soir pour remonter, etc. Donc, ils ont inventé exactement le même système, on met un sac de sable, et il met 3 heures à tomber, et ça éclaire pendant ce temps-là. Voilà, un autre domaine, puisqu'on est aussi là pour parler aussi de spirituel et de paix, du coup. Je vous ai sélectionné plusieurs initiatives de paix. Là, c'est un Israélien, qui se disait on ne peut pas vivre en permanence face à la peur de recevoir une bombe de la part de l'Iran. Et lui, il était graphiste, et du coup, il a posté sur Facebook le poster de gauche, Iranien, on vous aime, jamais on enverra une bombe sur votre pays. Et 3 jours après, il reçoit sur Facebook le même poster d'une Iranienne qui dit, Israélien, on vous aime, on vous enverra jamais une bombe. Et en fait, ce projet a eu un retentissement incroyable. Pareil, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont refait le même type de poster. Et donc, il y a eu des échanges incroyables. Et alors, après, il y a eu Israël, Palestine, Pakistan, Inde. Enfin, bon, ça a essaimé dans le monde entier. Donc, comme quoi, Facebook est aussi un outil de paix. Il y a même eu des campagnes dans les rues de Tel Aviv. Incroyable. Une autre initiative du Times of India, qui est un de nos partenaires, et on les a d'ailleurs contactés suite à avoir découvert cette initiative. Times of India, c'est le plus gros journal anglais dans le monde, qui fait 6 millions d'exemplaires, et le patron de ce journal s'est dit, mais on ne peut pas continuer, nous médias, à compter les points entre le Pakistan et l'Inde, parce qu'en fait c'est un de leurs gros enjeux, la guerre indo-pakistanaise, enfin en tout cas les conflits, et donc il s'est dit, il faut qu'on soit acteur. Et il a contacté son homologue pakistanais. Il dit, je propose un défi, c'est qu'on va faire une grande campagne éditoriale où toi tu vas titrer Love India et moi je vais titrer Love Pakistan. Un peu comme si le premier journal israélien titrait Love Palestine. Et ce projet a eu énormément de succès. Et avant la campagne, il y avait 59% des gens seulement en Inde qui étaient en faveur de la paix. Et après cette campagne, il y a eu 74% des gens qui étaient en faveur de la paix. Donc ils ont simplement, en faisant leur métier, changé le point de vue de 150 millions de personnes. Ça, c'est l'initiative de 5 jeunes. En fait, après notre tour du monde, il y a beaucoup de jeunes, peut-être d'ailleurs certains parmi vous, je pense qu'il y en a qui ont fait des tours du monde ou qui ont envie de partir à un tour du monde. Non ? J'espère que vous aurez envie d'après. Et donc, qui sont partis faire des tours du monde de l'eau, de l'énergie, de l'éducation, enfin, même des mariages, enfin, plein de sujets, de la bouffe. Enfin. Et il y a un thème qui, moi, me tenait à cœur, qui était le tour du monde de la paix, et personne ne le faisait. Le tour du monde de la paix, du dialogue interreligieux. Et du coup, je me suis dit, puisque personne ne veut le faire, on va créer une bourse de 5 000 euros, une petite société, donc 5 000 euros, c'est pas un anodin pour nous. Et donc, on a fait un appel à candidature, et il y a 5 jeunes qui sont proposés, donc un chrétien, une juive, un musulman, un athée et un agnostique, un athée militant, et qui, du coup, sont partis ensemble, ils sont en train de faire le tour du monde, pour aller rencontrer des dialogues, des initiatives de dialogue interreligieux, des initiatives de paix, dans un certain nombre de pays. Et ils ont fait cette petite vidéo, qui est assez courte.
Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut
créer une offre où on puisse garantir aux gens que leur pub va tomber autour de contenus positifs. Comme ça, c'est plus valorisant pour eux. Ça encourage les médias à parler plus souvent des solutions. Et en plus, du coup, la pub a un impact RSE parce qu'elle permet de partager des solutions. Et donc, hier, justement, j'ai rencontré le patron d'une des plus grandes agences médias et qui m'a dit, écoutez, honnêtement, je ne connais pas un seul de mes clients qui ne sera pas intéressé par ce que vous proposez. Donc, j'ai eu un peu peur au début, et ça nous a rassurés. Après, donc, on est en train de travailler là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est fait et il y a encore du boulot. Ensuite, pour la déclinaison corporate, ce qu'on est en train de faire, c'est de proposer à 20 entreprises mondiales en concurrence, à qui on dit, vous avez des projets dans vos boîtes. Il y a des boîtes qui ont des super projets, des super initiatives, dans tous les domaines, environnement, management, enfin, plein de trucs. Vous avez des projets, et puis vous êtes des médias. Si je prends l'exemple de Veolia, qui est un de nos sponsors, ils ont 50 journaux internes, externes, pour leurs clients, pour leurs... ils ont des intranets, des extranets. Et donc, et en permanence, ils cherchent du contenu qu'ils achètent assez cher, pour raconter des histoires, pour voilà, pas parler que d'eux, mais parler, si c'est une boîte dans le domaine de l'énergie, pour parler de l'énergie de façon générale. Et donc, l'idée, c'est que chacun va nous identifier 2-3 projets dans sa boîte. Nous, on fait faire un article, un reportage, et ensuite, tous ces contenus, on les met à disposition de tous les partenaires qui peuvent ensuite les utiliser pour leur média interne, externe. Et ensuite, on fait un séminaire où on les fait se rencontrer pour qu'ils se nourrissent les uns des autres, et éventuellement, pour qu'ils puissent rencontrer les rédacteurs en chef qui ont participé au projet quasi identique, mais dans les journaux. Donc ça permet effectivement de... Et pour ça, en fait, ils achètent en fait le projet. C'est pas du sponsoring, là, c'est vraiment une prestation, puisqu'ils ont du contenu, ils ont de la visibilité, et ils ont la possibilité de rencontrer des rédacteurs en chef du monde entier. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que même un dire comme Monde d'une boîte du CAC 40, ou même un responsable des relations presse-monde d'une boîte du CAC 40, ne connaît pas ces rédacteurs en chef. Elle n'a aucun moyen de rentrer en contact avec eux, et encore moins dans le cadre d'un projet qui a du sens, avec qui elle peut créer un institut personnel. Donc on s'est rendu compte que ça avait énormément de valeur et que ça, on pouvait le monétiser, tout en gardant effectivement, bien sûr, un équilibre pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et ensuite, le troisième pôle, c'est accompagner. Donc accompagner ces projets, accompagner les entreprises, donc, qui peuvent revêtir la forme du conseil. Et surtout, en fait, ce qu'on fait, c'est des conférences dans les entreprises pour les inspirer. Alors, on choisit un thème avec la boîte. Donc, par exemple, l'innovation, la forme du changement, les médias, la RSE, le management, le leadership ou autre. Et puis, on construit une conférence qu'on illustre avec des vidéos. On a 1500, comme celle que vous avez vue. Et donc, à chaque fois, on peut trouver des exemples, soit qui ont un lien avec un métier, soit pas du tout, au contraire, pour être décalé. Voilà, donc ça, on l'a fait avec le client agricole, avec ADO, qui est le groupe de Grand Merlin, avec on va travailler aussi avec L'Oréal, etc. Voilà. Je passe à répondre à la question. Et on est en train de faire lever des fonds. On est en train de démarcher des investisseurs, parce qu'on a besoin de fonds de roulement et puis d'investir un petit peu en embauchant 2-3 personnes de plus. Donc si vous connaissez des investisseurs, c'est bien.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une influence chrétienne dans les vidéos
diffusées
ou pas du tout?
Alors, c'est une bonne question. En fait, moi, je suis chrétien et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et personnellement, ce projet, je l'ai confié. Enfin, même une femme, l'autre jour, à une conférence, m'a dit, en fait, je pense que c'est pas vous qui avez confié le projet 2, c'est Dieu qui vous a confié. Il y aura peut-être une chose avec un autre, ce sera peut-être plus efficace, mais voilà. Mais donc pour moi c'est important. Par contre, à partir du moment où on s'adresse aux médias du monde entier, c'est un projet qui est non confessionnel, non politique. Autrement, on n'est pas audible. Et puis même, mon envie, c'est de partager les solutions, partager la capacité de l'homme à trouver lui-même les solutions pour sauver le monde, pour changer le monde. Et c'est ça qui est important. L'Indien qui a créé le Barefoot Project, je ne pense pas qu'il soit chrétien, j'en
ça vient, enfin. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la question, en tout cas, sur ces vidéos. C'est pas ça la question. Quoi. La question, c'est voilà, relayer les hommes et les femmes des projets qui montrent qu'on peut changer le monde, qu'on peut vivre heureux, qu'on peut trouver des solutions, etc. C'est la fin de l'émission.
Et encore une dernière question, peut-être.
On peut passer à la dernière vidéo ou pas?
Ah, bien sûr, non, en fait.
Bon. Je pense que vous avez tous sauf. Alors justement, cette dernière vidéo, c'est l'initiative du Times of India, justement, qui s'est dit, mais si on veut justement changer le monde, il faut qu'on repère les jeunes qui sont déjà des leaders et qui seront les leaders de demain. Parce qu'en fait, on a les élites, c'est pas ça, les élites qu'on choisit. Et si on repère pas en fait très tôt les jeunes pour leur révéler à eux-mêmes que ce sont des leaders, on ne pourra pas effectivement. L'idée, c'est de trouver les leaders de demain. Et donc, ils ont fait une pub qui est très hollywoodienne. Alors, moi, j'adore, mais voilà. Et en fait, vous allez voir, il y a un embouteillage. Donc, tout est bloqué parce qu'il y a un arbre au milieu de la route. Et voilà. Voilà ce qui va se passer. Votre rêve d'aboutir, c'est la peur d'échouer. Je vous remercie et à tout à l'heure pour un verre.